Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 18h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce vendredi 26 avril. Lutte contre le terrorisme, le président du Conseil européen qui a effectué une visite de 48 heures en terre ivoirienne a annoncé une aide de l'UE à la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de matériel et ce, à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'est demain samedi que va se tenir la 25e édition du week-end des Ebony à Yamoussoukro. Cette nuit de la communication a pour thème le journalisme face aux défis de l'intelligence artificielle et placée sous le parrainage du Premier ministre Robert Begré Mambé. En page internationale, JO 2024, à la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024, a été remise ce vendredi aux organisateurs français lors d'une cérémonie à Athènes. La flamme doit embarquer demain samedi pour Marseille, où elle est attendue le 8 mai prochain. Voilà pour l'essentiel. Visite de 48 heures du président du Conseil européen en Côte d'Ivoire juste après la séance de travail avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Charles Michel a animé une conférence de presse à son hôtel le jeudi 25 avril 2024. Il a réaffirmé l'appui de l'Union européenne à la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour la lutte contre le terrorisme. Charles Michel au micro de Junior Cardin.
J'ai pu annoncer au président que dans quelques jours, les États membres de l'Union européenne vont dégager des moyens additionnels pour des équipements afin de donner du soutien dans la lutte contre le terrorisme. J'ai pu visiter également ce centre qui montre toute sa capacité d'expertise dans le domaine des activités contre-terroristes. Et c'est tout à fait indispensable de coopérer dans un cadre régional aussi sur ce sujet-là. On apprécie le rôle de stabilité et de sécurité qui est assumé par la Côte d'Ivoire. Et nous comprenons bien que pour faire reculer la menace terroriste, il y a plusieurs éléments. D'une part, des armées performantes, capables de repousser ces menaces, du matériel, de la coopération avec les différents acteurs dans la région, et puis du développement, parce que le terrorisme se nourrit aussi des situations où l'État n'est pas présent, dans des zones qui sont parfois plus éloignées des capitales, et c'est la raison pour laquelle on apprécie par exemple ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire du côté nord, où il y a une dynamique qui est mise en place qui comporte à la fois des éléments de sécurité, de déploiement militaire, mais également du renforcement des capacités sur le terrain du développement, sur le terrain social, santé, éducation par exemple. Et puis, il est absolument essentiel de soutenir la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de réfugiés repoussés par cette menace terroriste vers la Côte d'Ivoire, plus de 50 000. Et donc, nous voulons aussi voir avec les organisations internationales comment on peut soutenir sur le plan humanitaire les efforts des autorités de Côte d'Ivoire pour accueillir dignement leurs frères burkinabés, pas seulement, mais principalement burkinabés, qui sont actuellement en Côte d'Ivoire.
Vous venez d'entendre Charles Michel, président du Conseil européen. Économie, la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire qui permet à l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation de présenter un rapport sur les performances du pays. La rencontre s'est déroulée hier mardi à Abidjan, Cocody, et il ressort de ce rapport que la notation de la Côte d'Ivoire est passée de 6.2 à 6.5 en 2023 et que le pays reste dans la catégorie de risque faible. Un extrait de l'intervention de Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence Bloomfield Investment Corporation.
La Côte d'Ivoire reste dans la catégorie des risques faibles, mais a évolué de 30 points de base. Alors la Côte d'Ivoire passe de 6,2 à 6,5, où nous recommandons l'investissement dans ce pays-là. Et ce qui a tiré cette notation, en réalité, tous les paramètres, le climat des affaires est passé de 6,4 à 6,5, la performance macroéconomique de 7,8 à 8,1, la gestion des finances de 6,3 à 6,5, la solidité du système financier de 6,1 à 6,3 et le risque sociopolitique de 4,2 à 4,9. Et donc la Côte d'Ivoire est un pays qui reste résilient, même si nous considérons que la résilience est à moyen terme, que pour une résilience à plus long terme, il sera nécessaire que la tendance que nous observons dans l'économie ivoirienne, qui est que 95% du tissu économique qui est constitué des PME contribue seulement à 20% de la richesse créée et que 5% en réalité des multinationales contribuent à 80% de la richesse. Donc évidemment, dans cette logique-là, dans une crise qui perdure, la probabilité que les 95% maintiennent l'économie pendant que les autres délocalisent, elle est plutôt mince. Il est extrêmement important que la majorité de la richesse soit créée par des entreprises locales.
Stanislas Zézé, président directeur général de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Réagissant aux conclusions de ce rapport, la ministre de l'économie, du plan et du développement a salué la pertinence de ces suggestions, mais a insisté sur les efforts du gouvernement pour améliorer le dynamisme de l'économie ivoirienne. Kaba Nialé, ministre de l'économie, du plan et du développement.
Je voudrais le saluer. Le rapport attribue une note globale de 6,5 sur 10 avec des perspectives stables à court et long terme, contre une note de 6,2 l'année précédente. On notera que le rapport de Bloomfield sur notre pays est corroboré par l'évaluation qui a été faite par l'agence Moody's, qui a également rehaussé récemment sa notation financière, passant de B à 3, avec une perspective positive en 2023 à B à 2, perspective stable en 2024. Ce rapport montre que malgré le contexte de choc et de crises successives qui prévaut au niveau international et sous-régional, les efforts contenus du gouvernement depuis 2012 portent leurs fruits, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de demeurer dans la catégorie des pays à risque faible. Ce rapport appelle cependant quelques commentaires de notre part. En ce qui concerne les données, certains chiffres sont à actualiser et il en a actualisé quelques-uns, séance tenante. Et également, certaines expressions, à notre sens, devraient être reformulées. Mais pour l'essentiel, donc, nous sommes d'accord avec les conclusions de ce rapport qui nous semble pertinent.
Kaba Nialé, ministre de l'économie, du plan et du développement. Traditionnelle rencontre d'échange entre le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, avec les dirigeants sociaux des entreprises publiques et agences d'exécution. La rencontre qui s'est tenue hier jeudi 25 avril à Abidjan Plateau avait pour thème bilan 2023 et perspective 2024 en matière de gestion du portefeuille de l'État. On fait le point avec Mata Touré.
Cette rencontre annuelle est non seulement comme un baromètre de pilotage du portefeuille de l'État, mais surtout sa vision pour l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Ce cadre permet de toucher du doigt les difficultés rencontrées par les dirigeants sociaux des entreprises publiques, mais surtout de faire un bilan. Bamba Seydou est le directeur général du portefeuille de l'État.
Un chiffre d'affaires global de 1815 milliards en 2023 contre 1688 milliards en 2022, soit une hausse de 8%. Demain, les résultats nets de ces entreprises sont passés de 91 milliards en 2022 à 129 milliards en 2023, une hausse de 42%.
De son côté, le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a fixé le cap pour l'année à venir, Moussa Sanogo.
La feuille de route gouvernementale pour l'année 2024 met l'accent pour ce qui concerne notre département sur deux points. Le renforcement du pilotage des entreprises publiques et le renforcement du contrôle des entreprises publiques. Sur ces bases, nous poursuivrons les initiatives engagées en matière d'amélioration des politiques de financement afin de garantir des niveaux d'endettement maîtrisés à court, moyen et long terme. Nous nous pencherons également sur la mise en œuvre des recommandations des audits commandités par l'État actionnaire dans les entreprises publiques. Je voudrais également souligner l'optimisation des ressources des entreprises publiques et citer la restructuration de certaines entreprises qui demeurent en difficulté à travers la revue de leur modèle économique.
D'autres chantiers restent à explorer dans cette feuille de route 2024, notamment le développement du capital humain ainsi que la digitalisation des entreprises publiques.
Rendons-nous dans la cité des Antilopes. Devant la prolifération des services financiers numériques en Côte d'Ivoire et les cas d'escroquerie et de détournement de fonds des usagers, l'Association ivoirienne des consommateurs a initié une campagne d'information et de sensibilisation des populations. À Daloa, cette ONG a récemment organisé un atelier de formation des formateurs sur le thème pour des services financiers numériques accessibles, plus sûrs et de qualité. Je m'engage. Ils auront pour mission de diffuser des connaissances qu'ils auront acquises à travers des séances de restitution à la population dans leur ville de provenance respective. Le projet est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, compte rendu Jean-Noël Kwame.
Cet atelier de formation vise à mieux informer, sensibiliser et promouvoir en Côte d'Ivoire un marché des services financiers numériques plus équitable et sécurisé pour tous. Moni Gervais est le président de l'association ivoirienne des consommateurs.
Aujourd'hui, les monnaies, les banques numériques, les prêts en ligne, les transactions numériques sont utilisées par beaucoup d'Ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas informés, ni sur leurs droits, ni leurs devoirs. Et comme on est confronté à beaucoup de détournements, on ne sait pas où aller se plaindre, on ne sait pas à qui se plaindre. Et c'est de tout ça que nous avons parlé pour mener ce combat contre ces monnaies numériques.
Katina Touré, le président de la commission régionale des droits de l'homme du Haut-Sassandra, a conseillé la prudence devant les arnaques et les actes frauduleux sur les services financiers en ligne et sur les réseaux sociaux.
Cette façon de faire constitue un moyen fiable de faire les transactions. Mais il faut que l'on fasse attention parce que de plus en plus, des problèmes sont créés. Au niveau des prêts en ligne, il y en a qui sont fiables. Par exemple, les réseaux classiques, lorsque vous prenez un prêt, quand vous sentez que ce que vous devez payer dépasse la norme, il ne faut pas vous engager à cela. Parce que c'est en ligne que ça se fait. Quelquefois, vous n'avez pas de repère pour pouvoir poursuivre ces personnes-là.
Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre de l'initiative mondiale de consommateurs internationaux visant à construire des services financiers numériques plus sûrs, équitables et accessibles à tous. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Comme nous l'annoncions en titre, les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire seront distingués ce samedi 27 avril 2024 à l'hôtel président à Yamoussoukro et cela à l'issue de la nuit des ébonies. L'UNJCI, l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire au-delà de cette nuit de distinction, organise une série d'activités du 26 au 28 avril entre rencontres sportives, villages gastronomiques et panels autour du thème « Les journalistes face aux défis de l'intelligence artificielle ». Les précisions de Jean-Claude Kluibel, président exécutif de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire.
Le choix du thème répond à nos défis actuels et futurs. Nous avons déjà des difficultés avec les fake news qui nous ont amené vraiment à être tous à aller à l'école pour apprendre le fact-checking et tout. Mais il y a un danger, il y a un fléau qui nous attend, qui est supérieur, qui est plus dangereux même, c'est l'intelligence artificielle. Face à l'intelligence artificielle, comment doit réagir le journaliste? Qu'est-ce que le journaliste doit faire? Comment doit-il se réinventer pour ne pas être un journaliste du passé et du passé? Tout cela, comme vous pouvez le constater, met en danger un peu l'exercice même de notre métier. Ensuite, nous avons encore un autre problème qui est le contrôle de l'authenticité de l'information.
Est-ce qu'on peut avoir les grands points de ce week-end des ébonies généralement?
Les grands moments sont l'inauguration du village des ébonies le vendredi, le panel de haut vol qui sera animé par des experts, le directeur général de la CNTS le samedi. Ça va commencer très tôt avec le cross populaire. Après cela, la finale de la confraternité. Juste dans la soirée, ce sera la nuit de l'excellence, la nuit de la communication, où on récompensera les meilleurs d'entre nous. Le dimanche, la visite du barrage de Tabo. Je donne rendez-vous donc à tout le monde à Yamoussoukro pour que vive l'excellence dans le journalisme.
Jean-Claude Koulibaly, président exécutif de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, a été joint par Didier Blais. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire et Prelsi en compagnie des associations Avocats sans frontières France, l'association des blogueurs de Guinée et d'autres organisations partenaires ont pris part à 2 ans durant au projet Impact, implication des médias numériques pour une prévention active des conflits et tensions. La cérémonie de clôture du projet a eu lieu hier jeudi 25 avril à Abidjan-Cocody. Le compte rendu de Didier Blé.
Durant 26 mois de 2022 à 2024, il a été question au cours de ce projet de faire le monitoring du traitement de l'information concernant les médias en ligne, renforcer la capacité des journalistes face aux fake news, mais aussi instruire les blogueurs et la société civile. Sermé Lassina, président du Réprelsi.
Les résultats sont positifs pour le Réprelsi dans ce sens que toutes les activités qui étaient prévues pour la Côte d'Ivoire et que le Réprelsi devrait piloter et mettre en œuvre l'ont été. La population continue de demander des équipes de formation et d'éducation aux médias. Tout ceci pour dire que c'était un projet important et pertinent. Si vous voyez que les populations cibles et bénéficiaires continuent d'en demander, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt et c'est extrêmement important.
Exécuté en Côte d'Ivoire et en Guinée, ce projet a pour objectif de contribuer à consolider une paix durable en Afrique de l'Ouest et se concentrer sur le rôle positif que peut jouer la société civile et les médias numériques en matière de prévention des conflits. Alpha Diallo, président de l'association des blogueurs de la Guinée.
Le projet Impact a eu plusieurs acquis en Guinée. D'abord, de stimuler la production journalistique en matière de lutte contre nos désordres informationnels de façon globale. Nous avons fait beaucoup d'éducation aux médias, nous avons testé plusieurs approches.
Notons que le projet Impact a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement, Martina Borovac de l'Union européenne.
Je pense que tous ces résultats vont rester pérennes dans l'environnement médiatique en Côte d'Ivoire et dans la région.
10 grandes villes de la Côte d'Ivoire ont été visitées, parmi lesquelles San Pedro, Dabou, Diokoué et Abidjan.
L'Institut national de formation judiciaire en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont initié récemment un atelier de renforcement de capacité des magistrats de Mans en matière de droit pénal et de genre. Objectif, permettre à ces personnes ressources du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'être en phase avec la bonne application des nouveaux textes de l'État de Côte d'Ivoire. Le point avec Stéphane Adams.
Cet atelier a enregistré la participation de 20 magistrats, juges et procureurs issus de la Cour d'appel de Mans. L'objectif de cet atelier avec l'analyste justice et des droits de l'homme au PNUD, Pascal Amiens.
Nous savons que la loi est une matière qui évolue. Les magistrats actuellement en formation auront leurs connaissances actualisées sur la donnée actuelle de la loi. Donc pourront mieux appliquer la loi qui est actuellement récente. Donc déjà, c'est de rendre une justice équitable, c'est de rendre une justice qui s'y est vraiment à la situation. Déjà, l'idée du projet, au travers de cette formation, lorsqu'on finit et que les juges ont leur connaissance actualisée et qu'ils vont rendre une justice qui est actuelle, normalement, ça doit pouvoir favoriser la cohésion sociale au niveau de la communauté, donc rapprocher aussi les justiciables de la justice.
Le juge Célestin Beugré donne ici son appréciation de ce renforcement des capacités en fin des rencontres.
C'est un réel plaisir pour nous de participer à cet atelier et de convier tous ceux qui sont présents à s'engager résolument dans la prospection de toutes les solutions qui sont indispensables à la bonne application des nouveaux textes de l'État de Côte d'Ivoire qui a signé bon nombre de conventions internationales et ces conventions ont été internées dans le droit national.
Cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Voilà, après Mans, nous nous rendons à San Pedro où la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, a organisé la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Objectif de ces journées, réfléchir à l'impact du changement climatique sur la sécurité au travail tout en relevant les défis et stratégies d'intervention. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
La double célébration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail se présente comme un support d'élaboration de mécanismes de prévention des risques d'accidents au travail, selon Bamba Ahmed, conseiller technique du directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale.
Depuis 2019, la CNPS gère le régime social des travailleurs indépendants, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont dans le secteur informel. Et ces journées qui se tiennent ici à San Pedro est un lien fort avec ce secteur-là, dans la mesure où il s'agira d'identifier les différentes actions en matière de prévention pour le secteur informel et de trouver des solutions à l'effet de les couvrir efficacement au niveau des accidents de travail. Il s'agira, à travers aussi cette journée, d'identifier les risques nouveaux qui apparaissent avec le changement climatique.
Pour Topo Makanda, contrôleur en prévention des risques professionnels à la CNPS, cette rencontre applique un intérêt particulier au secteur d'activité à fort potentialité de risque.
Cette année, nous réfléchissons sur des secteurs d'activité à fort potentiel de risque. C'est l'agriculture, les bâtiments et travaux publics, mines et carrières et éventuellement l'industrie manufacturière et les services de santé. Notre commune nationale gravite autour du secteur agricole. Il est donc important pour nous de faire en sorte que les acteurs du monde agricole soient pris en compte et soient protégés.
Selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, plus de 2 millions de travailleurs perdent la vie du fait des accidents de travail et des maladies liées à leur activité professionnelle. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors des frontières ivoiriennes, JO 2024, symbole d'unité et de paix, la flamme allumée le 16 avril dernier dans le site antique grec d'Olympie a été transmise à Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris aujourd'hui au stade Panathénaïque. Panathénaïque dans le centre d'Athènes. La flamme a effectué en matinée une étape sur le lieu emblématique du marathon, situé à quelques 42 km d'Athènes, après avoir parcouru 5000 km à travers la Grèce depuis son allumage. La flamme doit ensuite rejoindre le grand port de Pirée près d'Athènes et embarquera samedi à destination de Marseille dans le sud-est de la France. Le nageur Florent Manoudou sera le premier porteur de la flamme à Marseille le 8 mai prochain. Quelques 150 000 personnes sont attendues pour l'accueillir, où 6000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés pour sécuriser l'événement. Et fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Lutte contre le terrorisme. Le président du Conseil européen qui a effectué une visite de 48 heures en terre ivoirienne a annoncé une aide de l'UE à la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de matériel, et ce à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'est demain samedi que va se tenir la 25e édition du week-end des Ebony à Yamoussoukro, cette nuit de la communication à port thème, le journalisme face au défi de l'intelligence artificielle, est placé sous le parrainage du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Fin de ce journal. L'information sera de retour demain samedi dès 7h. À l'instant, place à votre magazine humanitaire présenté par Sonia Nzian sur Radio de la Paix. Merci et bonsoir.